Nous allons commencer par la prière. Seigneur notre Dieu, nous sommes déjà nourris ce matin. Ta nourriture est vivante. Des fois, nous ne nous rendons pas compte de ta nourriture. Et Seigneur, par la foi, nous te remercions par avance et que cette nourriture germe en nous et qu'elle puisse porter des fruits. Parce que dans ta parole, tu lui dis toi-même, ta parole est vie et ta parole est censée, elle est destinée à porter des fruits en nous. Si elle ne porte pas de fruits en nous, nous devons nous agenouiller devant toi, nous poser des questions, nous repentir s'il le faut, pour ouvrir notre cœur et que cette parole prenne vie en nous. Seigneur, je remets entre tes mains ce message de ce matin, que tu puisses mettre de côté tout ce qui vient de l'homme, mais que tu puisses parler au cœur, en ton saint nom. Amen. Le message d'aujourd'hui concerne une parabole. Une parabole que je pense que tout le monde connaît, et c'est la parabole de l'ivraie. Alors je vais demander à Ryan de nous lire ce passage qui est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13. Il va lire du verset 24 à verset 30. Matthieu 13, 24 à 30.
Il leur proposa une autre parabole, et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ? » ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. » Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la aux gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier.
Merci Ryan. Ce matin, ça peut être déstabilisant que d'évoquer une parabole aussi dure que celle-là. Ce matin, j'ai commencé déjà hier, avant-hier, à préparer le message sur cette parabole, et ce matin, je me suis levé tôt. J'ai préparé mon message et je l'ai envoyé à l'imprimante. Alors, comme mes habitudes, je monte, je vais à l'imprimante, je prends mes feuilles et je viens à l'église. Et avant de rentrer ici, je reprends mes feuilles et je dis voilà ce que je vais dire ce matin. Et il s'avère que cette imprimante a mal fonctionné. Mal fonctionné dans le sens où je l'ai mal alimentée en papier. Alors, une partie est sortie, d'autres n'est pas sortie. Alors, du coup, nous nous retrouvons devant une parabole dure que nous avons évoquée ce matin, que le Seigneur conduise toutes choses. Certes, c'est une parabole dure, vous allez le voir. Et peut-être, une des raisons que les feuilles ne sortent pas, peut-être, c'est que j'ai écrit. J'ai réécrit cette parabole pour la rendre plus gentille. Vous voyez ? Ça m'arrive des fois de dire, c'est trop dur de sortir ça, mais vous me rendez compte ? Abdel, tu es en train d'accuser les chrétiens. Et c'est vrai, j'ai essayé de changer pour la rendre gentille, qu'elle soit acceptable. Mais vous voyez, il faut revenir à la parole de Dieu. Ça fait mal, tant mieux. Tant pis. Si ça me fait mal à moi le premier, tant pis. Mais c'est comme ça. Eh bien, nous allons directement au message tel que le Seigneur, ou une partie de cette réalité que le Seigneur veut transmettre à travers cette parabole. Le sujet est venu suite à nos échanges, nos discussions durant les réunions de mardi et vendredi. On a discuté longuement sur la parabole du semeur. On la discute. Et il est question de différents chrétiens. ceux qui ont reçu la parole dans les cailloux, je ne sais pas quoi, et ainsi de suite, et celui qui a reçu dans le cœur. Ça veut dire que le Seigneur s'adresse à des chrétiens, pas à des non-croyants, à des incroyants, à des chrétiens. Il dit, parmi vous, il y a des bons et pas bons. Eh oui. Suite à notre discussion sur cette parabole du semeur, parce qu'on était dans le chapitre 4 de Marc, et on restait encore longuement dessus, le mardi soir, nous sommes en train de lire aussi l'évangile de Matthieu, le vendredi. Et c'est vrai qu'on s'étale sur ces paraboles, est-ce que le Seigneur veut nous montrer. Les paraboles, il y a deux paraboles dans l'évangile, et je le rappelle, il n'y en a que deux paraboles dans l'évangile où le Seigneur donne une explication. Il n'y en a que deux. Dieu, le Seigneur donne deux explications de deux paraboles. Le reste, il les cite. Comme par hasard, les deux paraboles, le Seigneur donne une explication. C'est la parabole du semeur et la parabole de l'ivraie. Posons-nous la question. Pourquoi, dans l'évangile, le Seigneur pointe le doigt sur deux paraboles jusqu'à donner l'explication? Ce que c'est vraiment très important au point d'expliquer toutes les autres paraboles. L'objet de cette parabole que nous venons de lire, la parabole de l'ivraie, c'est-à-dire le blé qui se mélange avec l'ivraie dans le même champ, l'objet de cette parabole est de décrire certains traits concernant le royaume de Dieu. Certains évangiles appellent ça royaume de Dieu. D'autres évangiles les appellent, d'autres écrits, le Nouveau Testament les appellent royaume des cieux. C'est la même chose. Royaume des cieux, royaume de Dieu. Cette parabole que nous venons de lire décrit certains traits concernant le royaume de Dieu. Nous le voyons par la phrase qui introduit l'histoire que Ryan vient de lire. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. L'expression royaume des cieux, comme je vous l'ai dit, dans Matthieu, est décrite comme royaume de Dieu dans Marc et Luc. En quoi consiste ce royaume? Répondant à Pilate, durant son procès, le Seigneur a dit: mon royaume n'est pas de ce monde. Jean, chapitre 18, verset 36. Le Seigneur a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc il est bien question d'un royaume qui n'est pas terrestre. C'est un royaume céleste. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à intégrer ce royaume céleste. Cette parabole a donc pour objet la royauté de Dieu. La sphère du gouvernement de Dieu. C'est le ciel de quoi il s'agit. Cette royauté divine comporte un aspect qui mérite d'être mentionné. En Matthieu 21, 43, Jésus termine le récit de la parabole des vignerons par une conclusion plutôt troublante. Voilà ce qu'il dit. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Parole dure. Portons-nous des fruits? Si ce n'est pas le cas, le royaume de Dieu sera enlevé. Je répète ce qu'il a dit le Seigneur. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Ici, le royaume de Dieu est une entité que Dieu lui-même peut décider de retirer quand il veut. Il n'y a rien d'acquis d'avance. Ce n'est pas définitif. Cette nouvelle nation, parmi laquelle le Seigneur établira son royaume, formera son Église. Si vous vous dites aujourd'hui, nous disons aujourd'hui, c'est sûr, c'est certain, je fais partie du royaume. Et si je ne porte pas de fruits, nous serons enlevés du royaume. Cette église est appelée nation sainte. Il suffit de lire l'épître 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Faisons-nous partie de l'église sainte? nous hériterons le royaume de Dieu. Ne faisons pas partie de l'Église sainte, il n'y aura pas de royaume de Dieu. Elle est le petit troupeau auquel Dieu a jugé bon de donner le royaume. Dans Luc chapitre 12, verset 32, je lis. « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Regardez l'expression « petit troupeau ». Dieu ne donne aucune importance à la quantité. Non seulement petit en quantité, mais petit aussi dans notre foi, l'humilité. Le royaume de Dieu n'est pas nécessairement une chose acquise automatiquement pour l'éternité. Dieu avait confié à Israël un royaume de vérité, et vous le savez. Mais plus tard, ce royaume lui a été retiré et donné par le libre choix de Dieu à un peuple sanctifié, l'Église. Paul répète la même vérité dans Romains chapitre 9 et chapitre 11. Voilà ce qu'il dit. Certaines branches ont été retranchées. Il parle des Juifs, incrédules bien entendu. Et vous, c'est-à-dire les païens, les non-juifs, qui ne faisiez pas partie de l'arbre originel, avez été greffés à cet arbre. Mais prenez garde, l'apôtre Paul, prenez garde de ne pas vous enorgueillir, car si Dieu a coupé les branches naturelles, il en fera de même avec vous en de semblables circonstances. Si Dieu a enlevé les Juifs incrédules de l'arbre pour leur incrédulité, comment ne le fera pas pour son Église incrédule? Rien d'acquis, mes frères et sœurs. L'enseignement de Jésus ne contient, comme je vous l'ai dit, que deux paraboles, où une explication est fournie. La parabole du semeur et la parabole de l'ivraie. Dans sa propre explication de la parabole de l'ivraie, Jésus fait appel à cet élément que j'ai répertorié. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Et Jésus se déclare comme Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les chrétiens, les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui a semé l'ivraie, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Le Seigneur nous enseigne que le royaume de Dieu englobe deux types de plantes. Deux sortes de personnes. Deux types de chrétiens. Il y a d'abord le blé semé par Jésus. Ce blé représente les fils du royaume, les vrais enfants de Dieu, ceux qui ont choisi de mettre au premier plan de leur vie la royauté de Dieu, ceux et celles qui font du Seigneur leur priorité, ceux et celles qui s'abandonnent à Dieu pour qu'il les façonne à sa manière, celles et ceux qui apprécient la valeur de la repentance, du dépouillement et de la sanctification qu'ils ne peuvent trouver qu'en Christ. Il y a aussi l'ivraie. Après que Jésus eut semé la bonne semence dans le monde, et le champ représente le monde, le diable fit son apparition et sema de la mauvaise herbe de l'ivraie parmi le blé. Qu'est-ce qui désigne le livret, en fait? Que désigne livret? S'agit-il des incroyants? Oh, nous le pensons, hein. Donc, c'est pour soulager sa conscience, on dit, ah, livret, c'est les incroyants. Eh bien, mes frères et sœurs, pas du tout. Remarquons l'endroit où livret est ensemencé. En plein milieu du blé. Elle a été mise en terre dans le but d'être mêlée au blé. Elle est ensemencée dans le même champ. À l'intérieur du royaume de Dieu. C'est pourquoi il est question de les mettre hors du royaume. C'est ce que nous lisons au verset 41. Cela signifie que ceux-ci se trouvent dans le royaume de Dieu. Mais ils en seront délogés à la fin du monde. L'ivraie se rapporte à des individus dans le royaume qui se réclament de Christ, mais qui ne sont pas véritablement des fils du royaume. En effet, cette parabole décrit l'ensemble de ceux et celles qui se disent être du royaume, à juste titre ou non. Autre point très important à soulever. Les serviteurs ont pris connaissance de la présence des mauvaises herbes seulement après que le blé eut grandi et produit du fruit. Verset 26. Et lorsque la tige monta et produisit du fruit, alors l'ivraie aussi parut. Voilà ce que nous lisons. L'ivraie a donc eu le temps de pousser pendant un certain temps avant que leur existence fût remarquée par les travailleurs. Ceux-ci exprimèrent d'ailleurs leur étonnement en demandant au maître « N'as-tu pas semé du bon grain dans ton champ ? Comment se fait-il qu'il y a de la mauvaise herbe ?» Tout cela laisse supposer que ces deux plantes, l'ivraie et le blé, doivent se ressembler grandement. Du moins au début de leur croissance. Cela expliquerait pourquoi elles ont pu pousser ensemble sans que personne ne soit aperçu de quoi que ce soit. Il faut attendre l'apparition des épis, de voir une différence. Cela n'est pas sans rappeler les paroles de Jésus dans Matthieu 7, 20. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est très important. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Concernant l'ivraie, son apparence est presque similaire à celle du blé. Ces individus ressemblent aux vrais chrétiens, mais dans les faits, ils ne le sont pas. Le fruit est foncé et vénéneux. C'est une mauvaise herbe. Ils grandissent parmi le blé à l'intérieur du royaume de Dieu et se disent être des sujets du royaume. L'ivraie représente donc des individus qui se font passer pour des disciples du Seigneur. Ils parlent comme eux, se comportent comme eux. Ils s'imaginent être des fils et des filles du royaume. Mais en réalité, ils ne présentent que les formes extérieures de la foi. La parole de Dieu les évoque plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Il suffit de lire les Corinthiens. Et il suffit d'écouter les messages de Jean-Marie concernant les sept églises. Paul met Timothée en garde contre ces prétendus chrétiens. Voilà ce qu'il dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 5 verset 3. Il parle de ces chrétiens en disant « qui ont l'apparence de la piété, mais en ont rejeté la puissance ». Dans ce sens, il faut considérer la parole de l'ivraie comme un avertissement pour nous, mes frères et sœurs. C'est un avertissement pour son Église. Chacun de nous doit s'examiner à la lumière de la parole de Dieu. C'est à la lumière de la parole de Dieu et à nos convictions profondes et sincères que nous pouvons intégrer le chemin de la repentance si c'est nécessaire. La Bible dit de ces gens qu'ils sont des fils du malin. C'est l'expression de la parole de Dieu. Des fils du malin, vous rendez compte ? Même s'ils sont dans le royaume présent actuellement de Dieu. C'est-à-dire au milieu des chrétiens, et même s'ils confessent de leur bouche la seigneurie du Seigneur. C'est une parole douloureuse, et je comprends pourquoi je suis tellement préoccupé, au point de perdre mes feuilles. C'est une parole douloureuse qui doit nous interpeller ensemble. Chacun doit s'examiner avec sincérité devant le Seigneur. Être chrétien est certains privilèges. Mais c'est surtout beaucoup de responsabilités. Si nous nous comportons comme il faut devant notre patron, dans ce monde professionnel, Pourquoi ne le faisons pas devant notre Dieu? Nous avons la crainte du monde, mais pourquoi ne l'avons pas de notre Dieu? Quand nous péchons, nous ne péchons pas contre nous-mêmes. La Bible nous dit, nous péchons contre Dieu. Dans quel état nous sommes quand nous péchons? Ici, les questions de mort ou de vie spirituelle. Qui sont ceux et celles que représentent l'ivraie et qui risquent d'être enlevés du royaume au jour du jugement dernier? Lisons Matthieu 13, verset 41. La parole répond à la parole. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Les scandales sont ceux qui commettent l'iniquité et font trébucher d'autres dans l'erreur en les détournant du chemin de la vérité. Ceux qui commettent l'iniquité, voilà les fils du malin, comme les seigneurs les appellent. Le terme iniquité est exactement le même que celui utilisé par Jésus quand il dit dans Matthieu 7, verset 23, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » De qui parle-t-il dans ce passage? Parle-t-il des incroyants, encore une fois? Pas du tout. Nous découvrons à la lecture de son contexte que Jésus évoque non pas les incroyants, mais ceux qui invoquent son nom et qui ont travaillé pour l'avancement de son royaume. Au verset 21, donc juste avant Matthieu 7, 23, verset 21, Jésus dit « Ceux qui me disent, écoutez bien, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, donc il parle bien des gens qui croient en lui. Vous voyez ? Voilà des travailleurs qui donnaient à Jésus le titre de Seigneur. Ils confessent que Jésus est roi. Et pourtant, le Seigneur dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Notez quand même dans cette phrase, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur qui entreront. Il est question de futur. Vous voyez ? Mais par la suite, il est question de royaume futur. Mais ceux qui vont rentrer dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Regardez le rapport. Ce ne sont pas ceux qui entreront futur qui vont, mais ceux qui font. Ça n'attend pas demain. Ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui obéissent dès aujourd'hui, à l'instant, à la seconde, maintenant, c'est pas demain, c'est maintenant, dès maintenant, je réalise, Seigneur, si je ne suis pas sur le droit chemin, Seigneur, pardonne-moi, je suis dans la repentance. Ceux qui font, oui. En ce jour-là, au jour du jugement éternel, ceux qui sont représentés par l'ivraie dans la parabole diront à Jésus, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? C'est bien des chrétiens. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom et fait bien des miracles en ton nom? Alors je leur dirai, dit le Seigneur, ouvertement. Il ne le dit pas aux incroyants, il le dit aux chrétiens. Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Vous qui commettez quoi? Qui commettez l'iniquité. Ce sera un moment de grande angoisse pour ces individus. C'est un moment d'angoisse que je ne veux pas vivre, mes frères et sœurs. Je ne veux pas le vivre. Il n'y a pas pire que ça. Qu'est-ce qui a fait défaut à cet ivraie, à ces incroyants, enfin à ces chrétiens de nom? Jésus nous dit clairement ce qu'il leur manquait. Malgré toutes les grandes œuvres qu'ils ont pu accomplir, ils ont omis un point crucial, une fidèle obéissance à la volonté du Père. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux à la fin des temps, mais il faut également faire la volonté de mon Père céleste. Voilà ce que dit le Seigneur. Comment fait-on la volonté de Dieu? Est-ce qu'en devenant religieux? Non, pas du tout. Car notre nature humaine cherche constamment son épanouissement personnel, sa propre gloire, même si elle nous trompe souvent par sa volonté de faire la volonté de Dieu. Nous sommes appelés à aspirer à une vie sainte. Je dis bien, avoir le désir de l'Esprit Saint. On ne nous dit pas, dès le matin, fais-toi les mesures, toi saint ou pas saint. Non, Il nous devons avoir ce désir profond au fond de nous de chercher la sainteté. Nous devons être appelés à chercher notre Seigneur. Dans la prière, bien entendu, dans la prière et dans la lecture de sa parole. Le Seigneur nous invite à nous rapprocher de lui comme des petits enfants. Comme des petits enfants. Pour le connaître lui et lui seul. Car il est le seul apte à nous faire entrer dans la présence sacrée et sainte du Père. Nous ne pouvons venir au Père que par le Fils. Le chrétien, c'est celui qui cherche à connaître son Seigneur, le Christ, le Seigneur. Et nous devons poser la question, est-ce qu'il est notre priorité dans la vie? Si ce n'est pas le cas, c'est dans la repentance et à genoux que nous venons au Seigneur. Sois ma priorité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 14, verset 6. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 3, voilà, je lis. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Elle n'est pas dans les choses. Elle n'est pas dans la recherche de l'amour, de la paix. Elle n'est pas dans la chose je ne sais quoi. Elle est dans une chose. Je cherche le Seigneur. Et lui seul, jusqu'au point de m'oublier. L'apôtre et le Paul, il le dit, je m'oublie, je ne regarde pas en arrière, je regarde en face de moi, Christ, je cours vers la vocation céleste. Alors mes frères et sœurs, si nous sommes dans une situation où nous battons entre nous, où nous sommes en train de rechercher la paix, l'amour, la joie, la paix, tout ça, on cherche des choses qui n'ont aucune valeur vis-à-vis du Seigneur Jésus. C'est cela que nous devons chercher. Nous ne pouvons pas nous préparer nous-mêmes pour intégrer le royaume de Dieu. Je parle du royaume de Dieu futur. Mais nous ne pouvons pas le faire par nos propres forces, mais seulement par la relation que nous développons avec le Seigneur. Avons-nous une relation personnelle avec le Seigneur? Est-ce que quand on se lève le matin, même avant de sortir du lit, on pense à lui d'abord? Et avant de dormir, je pense à lui d'abord? Quand je suis au travail, j'ai des difficultés, je regarde à lui d'abord? Tout dépend de la position de notre cœur. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. 1 Jean chapitre 5, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Si toutes ces remarques ne nous interpellent pas, et moi le premier, parce qu'en préparant le message, il faut savoir, mes frères et sœurs, parce que je ne viens pas en tant que moralisateur ici. Parce qu'en préparant le message, Dieu me parle à moi, le premier. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Et c'est pour ça le fait de préparer le message, c'est quelque part, c'est un privilège que j'ai, c'est que chaque semaine, Dieu me met devant la parole de Dieu. Vous voyez, donc c'est pour ça, quand on dit c'est une corvée pour vous, ah, dis donc, vous prenez du temps et tout, merci. Mais non, est-ce que vous ne savez pas? C'est que le fait de préparer le message pour le dimanche, et ben dans la semaine, je suis en train de penser au message, je lis la parole de Dieu le vendredi ou le samedi ou le dimanche, je ne sais quoi, et ben je suis en train de rentrer en relation avec Dieu, qu'il m'interpelle, moi, le premier. Donc c'est pour ça, égoïstement, merci Seigneur. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Ce n'est pas une corvée. C'est un moment de repos que je prends avec le Seigneur. Et grâce à vous, vous me permettez d'être en repos. Ce ne sont pas des choses que nous devons chercher, mes frères et sœurs. Mais le Fils de Dieu, le Christ, notre Seigneur. Si nous cherchons des choses, alors on prend le risque de rater la cible. C'est-à-dire le royaume de Dieu. Si nous cherchons à connaître notre Seigneur avec un cœur repentant et sincère, alors nous sommes prêts à rentrer dans le royaume de Dieu. J'ai peur de nos certitudes. J'ai peur des certitudes du monde chrétien. J'ai peur des certitudes des universités théologiques. J'ai peur de toutes ces règles qu'on crée dans le monde chrétien comme règles qui vont nous sauver. À rien du tout. Tout ça, c'est zéro. Ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien du tout. Au meilleur des cas, ça nous donne une certaine aura intellectuelle. On peut se vanter devant les autres. J'ai fait telle formation, j'ai tel diplôme, je sais vous parler, vous sortir les versets. Je les connais même par cœur. Je connais l'hébreu, je connais le grec, je connais ci. ça ne fait que alimenter notre ego. La véritable relation avec le Seigneur, elle est du cœur. Venez à moi comme des petits enfants. Seigneur, je ne veux pas être livré. Je préfère être un âne, quelqu'un qui ne vaut rien de ce monde, mais qui est prêt pour le royaume de Dieu. Vous préférez des intellectuels, une certaine aura, ben je vous la laisse. Seigneur, que tu nous aides à te connaître toi. Un autre exemple qui est très parlant, qu'on lit dans Jean chapitre 8, verset 44. Et ça nous explique exactement ce que nous sommes en train de dire. Jean 8, 44. Dans ce passage, les Juifs affirmèrent leur lien de parenté avec Abraham en disant à Jésus, « Nous sommes les fils d'Abraham. » C'est un droit. « Nous sommes des chrétiens. Nous connaissons l'évangile. Nous sommes baptisés. Nous sommes ci. » Vous voyez, comme les Juifs. « Nous sommes les fils d'Abraham. » Jésus répliqua en disant, écoutez ce qu'il dit à ces Juifs, peuple de Dieu. Vous avez pour père qui ? Vous vous rendez compte ? Il est en train de s'adresser au peuple de Dieu, les pharisiens, ceux qui connaissent la parole de Dieu. Il leur dit que leur père, c'est le diable. Et nous, on dit, ah non, le Seigneur ne peut pas m'adresser à moi, chrétien. Il ne peut pas le dire. Quel privilège j'ai, moi ? Il peut me le dire aussi. Si je suis à côté, je peux me dire, toi, tu es le fils du malin. Parce qu'il l'a dit au peuple de Dieu. Nous ne nous rendons pas compte de cela. Mais c'est tellement dur, tellement fort. Si ça ne nous interpelle pas, je ne sais pas ce qu'il faut. Autrement dit, vous êtes des fils du malin. Vous qui prétendez être des fils de la famille d'Abraham, vous savez tout, etc. Vous respectez les règles, tout ce que vous voulez. Mais vous oubliez une chose. Vous ne cherchez pas par votre cœur réellement votre Créateur. Est-ce que quand vous péchez, vous êtes mal ? Ou est-ce que vous dites, oh, c'est pas grave, Dieu pardonne. Est-ce que le péché vous fait mal? Pourquoi? Parce que quand vous péchez contre mon Père. Puisque vous êtes chrétien, vous avez la semence. Si votre nature pêche, c'est vous avez péché contre mon Père. Et il ne nous demande pas de nous libérer, de nous forcer nous-mêmes, parce que si on n'arrive pas à nous libérer, mais au moins avoir l'attitude du cœur. Seigneur, j'ai péché contre toi, je me repens, aide-moi à changer. C'est cette attitude-là qui fait de nous des chrétiens. Voilà, c'est un message, je trouve, qui est très dur sur cette parabole de l'ivraie. On peut tomber dans le piège où les églises commencent à appliquer ce qu'on appelle la discipline. Voilà le piège. C'est un piège diabolique. C'est-à-dire, dans les églises, ils disent... Comme nous nous rendons compte que l'Église doit être à l'image de Dieu, alors nous, responsables de l'Église, nous allons essayer de regarder tous ceux qui ne sont pas sur le droit chemin, nous allons leur dire, on va même les virer s'il le faut. Voilà une démarche diabolique, encore une fois. Nous nous mettons au niveau de Dieu pour dire, je vais juger ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Le Seigneur nous dit, garde-toi, toi, en tant que responsable, toi, personnellement, reste sur le droit chemin. Et en étant sur le droit chemin, même celui qui est livré, tu vas l'aimer. Vous voyez ça ? Un message d'amour. Toi qui crois chrétien le blé, ben si tu es réellement le blé, tu ne jugeras pas ton prochain. Tu vas aimer livré. Tout en sachant qu'il y aura le moissonneur au bout. Le fait que le Seigneur permette livré dans l'Église, parce qu'on pourrait dire, pourquoi le Seigneur a permis à Satan de planter le livré ? On pourrait poser la question. Eh bien, le Seigneur est une école pédagogique spirituelle qui nous dépasse. Le fait d'avoir livré dans l'Église, ça participe à la sanctification du blé. C'est toi qui considères comme blé, tu vois livré, alors tu dois encore t'ancrer plus dans le Seigneur, parce que tu vois ce que c'est livré. Et livré, quand on regarde le blé, eh bien, le blé devient un témoignage pour livré. Et ainsi, l'Église, elle peut se transformer. Celui qui se croit livré, celui qui se croit blé, en fait, il n'est pas blé. C'est le croyant saint, pur, tout ce qu'on voulant. C'est qu'il y a forte chance que nous soyons dans l'erreur. Pourquoi ? Parce que tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu, quand elles vivent cette sainteté avec Dieu, ce ne sont pas eux ou elles qui le remarquent, ce sont les autres qui remarquent. On ne se juge pas soi-même, on ne se mesure pas soi-même, mais seulement nous recherchons la volonté de Dieu. Rechercher à regarder à Dieu. Et notre témoignage, elle peut servir à mon frère, à ma sœur, concernant comme livret, qu'elle puisse être une personne repentante, touchée à son cœur. Et quand je parle de l'Église, je ne parle pas d'un bâtiment. Je parle de l'Église en tant que corps du Christ. Que pouvons-nous faire? Rien du tout. Que pourrais-je faire? Rien du tout. Que pourrais-tu faire? Rien du tout. Seulement grandir dans la communion avec ton Dieu. Seulement grandir dans la connaissance de mon Seigneur. Et en sachant que Dieu prend contrôle de toutes choses. Car tout concourt à ceux qui aiment Dieu. Christ est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui a la vie a le Fils. Celui qui a le Fils a le Père. Mais Dieu nous demande d'avoir les yeux ouverts sur la réalité de l'Église. Que Dieu nous aide. Amen. Amen.